passé un bel été, donc toutes et tous. Bien, c'est plutôt bien passé. Les animations ont été animées. Tout s'est bien déroulé. Avec du monde, un très bel été. On va faire l'appel. Sylvie Pavlista.
Oui.
Jérôme Sauveplane.
Oui.
Elsa Lévin.
Oui.
Jules Chamou.
Oui.
Anima Filali.
Oui.
Denis Sauveplane.
Oui.
Jean-Baptiste Thibault. Gérard Verceau.
Oui.
Valérie Machecou.
Oui.
Lionel Giron-Père est absent, il donne procuration à Sylvie Pavlista. Chantal Pralon est absente, elle me donne procuration. Magali Fesquet est absente, elle donne procuration à Anima Filali. Emmanuel Puech. Eric Poujade absent. Lionel Coste, il va arriver. Émilie Pascal. Ulysse Boisson, Katia Julia absente, Anna Mesba absente, Corinne Calazel, Monique Laurent,
oui.
Alexandre Cosa, Alexandre,
il
risque d'être en retard, c'est ça. Maxime Garcia, Olivier Demko, Magali Carterade et Jean-Robert Trier. Et oui, Alexandre donne procuration à Maxime temps qu'il arrive. Voilà. Allez. Première délibération, budget 2024, décision modificative numéro 3. Ah oui, pardon, attendez, je suis en vrac, excusez-moi. Le compte rendu du précédent conseil municipal. Avez-vous des remarques à faire sur ce compte rendu? Pas de remarques, donc c'est bon. Il faut désigner un secrétaire de séance. Alors, la dernière fois, c'était Jean-Baptiste. Valérie, tu veux bien être secrétaire de séance? Allez. Y a-t-il des questions, des oppositions à ce que Valérie soit secrétaire de séance? Non. Alors, c'est bon, on peut y aller. J'ai mis le... Donc, délibération numéro 1, budget 2024, décision modificative numéro 3, budget de l'eau potable. Jules Chameau.
Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On a ici une décision modificative uniquement pour le budget de l'eau. On a quelques titres annulés, okay. Donc c'est quand le trésor public n'arrive pas à récupérer les fonds, et donc on en a reçu cette année. C'est quelque chose qui arrive tous les ans, par exemple au moment de changement de locataire ou alors quand il y a des fuites importantes et qu'on ne met pas à la charge de la personne. Donc en échange, on a des recettes sur le produit des hélices à hauteur de 4000 euros, donc pour compenser ces deux mouvements. C'est pour la partie fonctionnement et pour la partie investissement, le Trésor public nous demande de changer le chapitre sur lequel on a inscrit les crédits. Là, ils avaient inscrit sur le chapitre 21 et ils souhaitent qu'on les inscrive sur le chapitre 20. Donc on fait une opération d'équilibrage entre moins 7000 et plus 7 de dépenses. C'est simplement une écriture sur cette DM.
La NUPECH a dû partir du SAPSA. Des questions sur cette délibération? Questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 2, tarif 2025 du village vacances à la Pommerée, Sylvie Pavlista.
Donc dans cette délibération, il s'agit d'augmenter les tarifs du village de vacances, soit la journée ou les tarifs à la semaine. En réalité, ils n'avaient pas été augmentés depuis 2016 et il y avait 3 saisons, basse, moyenne et haute. Et là, il y a plus de catégories qui sont inscrites, une de plus. Et l'augmentation est, par exemple, si je prends une semaine de 7 jours, de 7 nuits, 7 jours, en basse saison, c'était 350 pour le gîte le plus important. Là, ça passe à 370. Pour la semaine moyenne saison, du 14 août au 12 juillet, du 16 août au 30, c'est 620. Avant, c'était 610. Et la haute saison, c'est 820 au lieu de 810. Donc, l'augmentation pour une semaine est de 10 euros, par exemple, dans les exemples que je vous ai donnés. Ce qui semble quand même raisonnable depuis 2016. Ça fait presque... Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Eh bien, on passe au vote. Donc, qui est contre ? S'abstient. Merci. Délibération numéro 3. Demande de subvention dans le cadre du salon fabriqué en Cévennes. Maxime,
vous avez une question, c'est encore...
Non, c'était juste par rapport au tarif précédent.
Libération numéro 3, demande de subvention dans le cadre du salon fabriqué en Cévennes. Vous le présentez, Jérôme? C'est bon, allez. Donc le fabricant Cévennes, cette année, donc, pour la foire d'Apom et de l'Oignon, c'est la 30e édition. Donc l'idée a été de créer un salon du fabriqué en Cévennes pour valoriser les savoir-faire donc notre territoire et de valoriser donc toutes les innovations. Il y a beaucoup de petites entreprises, de petites avec des produits bien particuliers, assez uniques donc en France voire en Europe. On a rencontré quelques entreprises qui font des optionnels. Et donc l'idée, c'est de valoriser ces savoir-faire et ces entreprises. Donc ce salon se tiendra sur le parvis de la mairie. Les entreprises ont répondu présent, donc une quinzaine d'entreprises ont répondu présent. Et ben voilà, c'est une première, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est bien de valoriser en tout cas les entreprises qui ont un vrai savoir-faire sur le territoire. Donc, il s'agit de le budget prévisionnel de cette manifestation, il est de 15 000 euros. Donc, nous demandons des subventions à la CCI, à la région Occitanie. Et donc, nous avons une. La CCI a déjà répondu présent.
Favorablement.
Donc, 3 000 euros de subventions. Voilà. Avec un autofinancement pour la mairie du Vigan de 9 000 euros.
Alors, passe. Une nouvelle date Alors, le public peut-être ne vient pas spécialement pour ça, donc ne sera pas peut-être attiré.
Alors, on a décidé que ce serait pour la première, le jour de la foire de la Pomme et de l'Oignon, parce que c'est une journée qui attire, l'an dernier, c'est une journée qui a attiré 15 000 personnes. Hein, nous avons pris une. Voilà. Nous avons rencontré l'usine, le directeur de Well, et quand on lui a proposé donc, d'être présent, donc quand on lui a parlé de ce salon, il a trouvé l'idée excellente que ce soit le jour de la foire de la Pomme et de l'Oignon, parce qu'il y a énormément de passages ce jour-là et qu'il y a une plus grande visibilité pour ces entreprises-là. Dès la première, voilà. Parce que peut-être que l'isoler sur une journée vraiment dédiée à ça, on ne sait peut-être pas forcément faire venir des exposants, enfin, des entreprises. S'il n'y a pas un nombre suffisant de visiteurs, ça peut être un petit peu... voilà. Donc ils ont un espace qui leur est entièrement dédié sur le parvis de la mairie, avec une installation vraiment digne de ce nom, et une communication distincte. Oui.
La communauté également.
La communauté des communes, non, je crois pas. Hein, non, il n'y a pas de subvention demandée. Non, non, c'est vraiment un événement porté par la mairie du Vigan. Bien sûr, évidemment, on le travaille ensemble. Hein. Oui, oui.
Chacun apporte un morceau très impliqué dans l'organisation de la 30e anniversaire. Il y a donc, rien que d'habitude, on n'a pas de personnes supplémentaires. Et donc l'idée, c'est aussi de soulager l'organisation, effectivement. Le développement économique, mais pas que. C'est donner de la fierté aux gens, c'est démontrer qu'il y a des savoir-faire, c'est un peu plus global que ça. Donc on se dit que voilà, la mairie peut aussi jouer son rôle pour cette année. Pour l'année prochaine, on sollicitera si jamais ça se fait sur la comme la
question. Voilà.
Là, en fait, un peu comme sur le pôle d'échange multimodal, chacun prend sa part, on va dire, de l'effort. On travaille tous ensemble pour faire de cette année une réussite.
Et puis on verra bien quoi, si c'est une réussite ou pas. Enfin, c'est une première, donc on va tester, on va bien voir ce que cet événement. Une quinzaine. Une quinzaine pour l'instant. Mathieu Luzinoël. Il y a Ergo Santé, donc ils sont à Anduze. Ergo Santé, ils font des exosquelettes. Et c'est unique en France. Donc c'est la seule entreprise en France qui fabrique des exosquelettes. C'est à Anduze. Noël, il y a Brady, il y a Chatterson.
Brady, c'est de la ferronnerie.
Brady, c'est de la ferronnerie, pardon. Oui. Chatterson. Voilà, Chatterson qui fait des meubles d'art, hein, qui a entre autres fait les meubles musée Carnavalet, hein, les meubles à Paris. Les artisans bâtisseurs Pierre Sèche, Séricine, l'entreprise Séricine qui est à Monoblé. Sur les verres à soie, ils font des objets de l'artisanat d'art avec du fil de soie. L'entreprise Beleza, c'est des produits de beauté donc, qui sont, donc, elles sont à Saint-Hippolyte-du-Fort et elles ont leur labo sur Alès. Poterie Terre Figuière, il y a l'imprimerie Clément qui a répondu présent. Le collectif Potocopo, donc avec un luthier, des menuisiers, des ébénistes. Coeo n'a pas donné sa réponse, mais on attend. Jalat aussi.
C'est bon pour
Coeo. Ok. Jalat, qui est une entreprise donc sur Saint-Hippolyte-du-Fort. Marcel Dreux qui fabrique la Cordina. Et ils sont trois facteurs d'un instrument vraiment de musique. C'est pas un luthier, non. Ouais, c'est ça. C'est pas du piano, la cordina, c'est.
C'est entre un accordéon.
C'est entre l'accordéon
et un harmonica.
Et il en vend pas. Il habite au Vigan. Il habite au Vigan et il en vend partout dans le monde. Voilà. Et Tufferie, donc on attend sa réponse, la réponse de Tufferie. Et Jean Aflorac. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Question, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième délibération, demande de subvention pour la réalisation de travaux de la traversée d'agglomération de la véloroute 85 tranche 1. Sylvie Pavlista.
Alors, donc, cette véloroute, c'est la fameuse V85 qui arrive de Nîmes pour aller peut-être un jour jusqu'à Tournemire. Pour l'instant, elle arrive à Sumène. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire la liaison entre parce que comme il y en a une qui ressemble, que je ne dise pas de bêtises, entre le PEM de Tessan jusqu'au panneau de la sortie de la ville en allant donc vers Ganges, et puis dans l'autre sens, de Saint-Eusébie au nord de la Prade, qui est ensuite après commune d'Avèze. Donc, c'est une tranche de travaux que l'on souhaiterait débuter en 2025. Ce projet, il est inscrit dans Petite Ville de Demain, il est en lien aussi avec l'intercommunalité, puisque ça vient se raccorder au PEM, ou le PEM, on le verra dans l'autre délibération, je crois. Le PEM est à la fois apporté par la communauté des communes et la mairie du Vigan. Et voilà, donc là c'est une demande de subvention pour faire, peut-être tu peux mettre le plan qui est juste après, une demande de subvention pour lancer ces travaux, donc c'est les parties vertes. Parties vertes, c'est le département, donc c'est la voie verte qui doit arriver jusque-là, et nous, c'est le rouge.
C'est le rouge.
Enfin, parce qu'après, alors, ce qui est dans la ville, pas stricto sensu, c'est-à-dire que de Tessan jusqu'au panneau, de l'autre côté, la Saint-Eusébie jusqu'à la sortie, parce que le centre-ville, entre guillemets, c'est la partie rose, et là, ça sera l'objet d'une tranche 2, où on est moins avancé, puisqu'il y a d'autres problématiques liées au passage sous les ponts, pour les vélos, parce que les vélos, c'est facile de passer sous le pont, mais c'est une voie qui a partagé avec les transports, comment on appelle ça, exceptionnels. Donc il y a du travail à faire encore, et la coordination avec le département pour éclaircir cette zone. Alors le département pour la voie verte, et qui est donc de la bonne couleur sur l'écran, ils ont déjà commencé leur travail, à savoir que qu'au préalable, il y a différentes études à faire, il faut commencer à consolider les ouvrages, à les nettoyer, etc. Donc ils ont commencé par toutes ces choses-là. Ils attendent des retours d'études pour savoir s'ils devront faire une enquête publique ou pas. S'ils doivent faire une enquête publique, ça va reculer un petit peu l'échéance. Normalement, ils devraient faire les travaux fin 2026-2020, fin 2025-2026. Mais s'il y a une enquête publique qui retarde, ça sera plutôt 2026-2027.
C'est quoi une enquête ?
En fait, par exemple, pour le SCOT, on fait une enquête publique. C'était l'enquête, tout le SCOT est arrêté, il a été finalisé, mais il est soumis à approbation de tous les citoyens. Et donc, tout un chacun peut après apporter son avis, qui est étudié par un inspecteur, un commissaire, voilà. Qui est spécialisé dans le domaine et qui étudie si les avis qui sont donnés sont recevables ou pas. Et du coup, tout ça, ben, ça prend du temps, ça rallonge le délai. En attendant, nous, on avance. On prend notre part, on avance. On veut que ça soit coordonné avec le PEM et d'où cette demande de libération pour demander des subventions. Donc, le financement total, un doute avec ça. Le financement, oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Le financement de ces deux arrivées de voies vertes, ça représente 835 000 euros. Donc le département devrait y concourir à peu près à 43%, la région 15%, l'État 21%, et on aurait un autofinancement pour la ville du Vigan à hauteur de 20%, ce qui nous resterait donc à 167 000 euros à notre charge. Deux portions de voies vertes. Ben, dès qu'on touche à la voirie, c'est extrêmement cher. Les travaux de Jean Jaurès, je ne l'ai plus en tête, mais c'est très cher. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
Vous avez des questions ?
Alors, il faut qu'on ait résolu certains problèmes avec le département, comme je disais, l'exemple des ponts pour affiner le tracé, en fait. Voilà. Mais on aimerait bien que ça soit à la suite, oui, bien sûr.
Questions ? Non ? Passe au vote ? Qui compte ? Qui s'abstient ? Merci. Libération numéro 5, demande de subvention pour la réalisation de travaux dans le cadre du plan d'échange multimodal, Sylvie Pavlista.
Alors c'est vrai que ces deux délibérations sont très proches, d'où mes hésitations de tout à l'heure pour savoir de quoi je parle au bon moment. Donc là, il s'agit de l'ouvrage du pôle d'échange multimodal à l'entrée de la ville. Ça fait partie du schéma des mobilités qui a été approuvé au sein du SCOT du PETR Cossé-Cévennes, où il y a un schéma de mobilité de l'ensemble des PEM. Celui-ci, ça sera le principal. Il y aura d'autres PEM ruraux, comme à Avez, à Arres, à Alzon, mais aussi à Pont-d'Hérault, à Valrogue, à La Nuéjol. Bon, ça fait partie d'un schéma global. L'intérêt de ce pôle d'échange multimodal, c'est de favoriser tous les déplacements, à savoir aussi les déplacements en bus. Actuellement, on a 35 000 personnes qui prennent le bus à destination de Montpellier, de Nîmes, d'Alès. Il faut savoir que ces chiffres sont en augmentation de 30% par rapport à 2019. Donc, il y a un mouvement de personnes qui prennent ce bus pour différentes raisons. C'est pas cher, il y a de plus en plus de... Par an, 35 000 par an. En plus de liaisons qui sont aussi directes, on est en train de travailler pour en faire davantage. Quand je dis direct, ça soit au départ du Vigan, Ganges et directement par exemple pour Montpellier ou pour Nîmes. Donc il y a un petit schéma qui représente l'ensemble des travaux nécessaires. Ce qui est en jaune est à la charge de la communauté des communes. La voie verte, qui est aussi qui est intramuros, donc qui nous incombe, c'est le petit tracé vert. Ensuite, on a de la voirie, qui est en violet, qui est plus une voirie propre donc à la mairie. Et il y a un distinguo avec la voirie bleue, qui est là sur la voie D999. Et qui est très subventionné par le département, puisque c'est la continuité de la voie départementale, mais comme on est en agglomération, on doit participer au financement. Donc le financement de ces trois zones, alors là, tout ce qui est voirie, c'était le vert et
Québec. Voilà, j'y arrive. Donc le département subventionnerait à hauteur de 25%, l'État à hauteur de 55%, et on aurait un autofinancement de 20%. Donc 20 788. Pour ce qui concerne la zone bleue, donc la RD 999, mais sur la commune du Vigan, là, le département le subventionne à hauteur de 80% et il nous reste 35 000 euros, c'est-à-dire 20%. Voilà, donc c'est toutes les voiries qui concernent, qui sont tout autour du PEM et autour de ce qui incombe à la communauté des communes. Vous avez des questions ? Le rond-point ne bouge pas,
on ne le touche pas.
On le voit.
Il est tout pareil.
Non, on n'y touche pas.
On ne touche rien du tout. Par contre, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la voie qui est retravaillée. Elle aura tout autour, elle fera une largeur de 8 mètres et la même largeur partout. Ce qui nous permet, parce qu'aujourd'hui c'est un peu irrégulier, ce qui nous permet de dégager un trottoir assez conséquent tout au nord de la carte, là. Mm-hmm. Voilà, par ici. Ah, la voirie sera de 8 mètres de large.
Le rond-point
reste.
Le
rond-point, il ne bouge pas. Alors, 835 000, c'est l'autre délibération, c'était concernant les voies vertes. Là, on n'est que sur.
833 000 euros 486, c'est à la charge de la communauté du Provence.
Il y a deux choses. Il y a 830 000, c'est à la Comcom, et là on vote sur
notre
le complément.
Notre
le complément
ce qui nous incombe.
1 million, 1, 300 000 en gros. 3 000 plus les 164.
En fait, le projet global, voilà.
Comme tu me regardais. Oui, oui.
C'est le
genre.
C'est ça.
On verra en délibération à la communauté des communes, voir que dans cet équipement de 803 000, il y a les stationnements PMR pour les bus, plusieurs locaux pour mettre son vélo de manière sécurisée, des sanitaires, des espaces de bancs de table, etc., des bornes de recharge pour les vélos, mais aussi pour les voitures. Enfin, il y a tout un tas de choses qui
ont. Avant, j'avais une grosse augmentation.
Après, surdimensionner, il faut bien faire des arrêts de bus qui puissent embarquer des gens qui sont en fauteuil ou qui sont en situation de handicap. Pour l'instant, on n'a aucun arrêt de bus. Le premier, il est à Condéro. Et sinon, Sylvie, tu avais été confrontée avec quelqu'un qui était quand même un handicap et il a fallu que tu ailles l'aider à monter dans le bus, qui est quand même un comble. Il y a ça. Et puis alors, ce que tu relèves, je trouve que finalement, c'est assez positif de dire qu'on a mis les choses à l'envers. Mais finalement, je trouve que en Pays Viganais, on n'anticipe pas trop les choses. Là, pour le coup, le besoin était anticipé puisque c'est né d'un travail du CODEV, de l'ancien mandature du PETR, donc ça date effectivement de 2018-2019. Donc, et finalement, ils n'avaient pas tort de se pencher sur la question, puisqu'on voit que c'est très très long à mettre en place et que, comme je le disais tout à l'heure, 2019-2023, les chiffres n'étaient pas 2024 mais 2023, donc en 4 ans, il y a eu quand même 30% d'utilisation de plus du transport en commun. Donc oui, c'est ça, pour le bilan carbone, je pense que c'est quand même beau. Et si on fait une structure comme ça, qui est très visible, qui est facile de prendre le bus, parce qu'on peut arriver avec sa voiture, on peut arriver avec son vélo, voire même le vélo dans le bus, ça devrait encourager aussi ces transports. Je pense que ça va être vertueux, à mon sens. Mais...
Est-ce que c'est préalable un engagement ferme le bus,
oui, c'est oui, en oui. Négo, hein. Oui, c'est en cours de négociation.
En fait. Sur,
ça va ensemble, souvent ça va ensemble. Ça. Je ne sais pas dans quel sens, mais ça va ensemble.
Quand même, on a un projet là, par rapport au premier projet qu'on avait eu, c'était un budget beaucoup plus important, on était dans les trucs à deux.
Oui.
Il y a deux objets de réponse. Sur le volet financier, on voit qu'on a des autofinancements pour nous, et ça sera la même chose sur le périmètre des communautés de communes, j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, donc pensions qui sont de l'ordre de 80%, comme sur le pôle d'enseignement supérieur. En moyenne, sur le mandat, on investit une fois et demie à deux fois plus parce qu'on arrive à décrocher des subventions. Pourquoi ? Parce que nous faisons des projets qui sont pile dans les domaines d'intérêt et dans les domaines dans lesquels veulent agir les subventionneurs. Ça, c'est pour la partie financière. Donc, on est pile poil à leur cahier des charges. Et sur la question du transport, comme j'ai travaillé aussi sur ce sujet-là à la région, la manière dont c'est vu du côté de l'organisatrice des transports, qui est la région, c'est que, et c'est constaté dans le monde et sur tous les types de mobilité, que ce soit le vélo, les transports en commun, le bus, les tramways, c'est qu'il faut à la fois avoir les infrastructures et l'offre pour que les gens les prennent. Donc tu as raison, il faut plus de bus. Il faut aussi des espaces, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des endroits attirants. Il faut que les gares de métro, quand on parle du métro, elles soient spacieuses. Pour les pistes cyclables, il faut qu'elles soient suffisamment larges, sécurisées, etc. Et donc là, il faut un espace où on n'a pas peur de se faire renverser, on peut vraiment se garer, avoir le temps, etc. Donc il faut à la fois l'infrastructure et l'offre. Et en fait, l'offre, elle va avec l'infrastructure. Si la collectivité, elle ne s'engage pas sur l'infrastructure, et retransport le transporteur ou le conseil régional pour la ligne 140 d'un côté, pour la ligne 608 de l'autre, pour les deux principales qui nous concernent, elles ne vont pas se dire je vais augmenter l'offre sur une infrastructure qui n'est pas attrayante et donc qui ne rencontrera pas son public. On a déjà fait des efforts, on a refait les abords, on a refait les panneaux de signalisation, on a remis un petit bout d'abribus, il n'y en avait plus pendant un certain temps, on a un peu défriché l'espèce de bain en redimensionnant les bancs, tout un tas de choses, et puis le prix de 20% de fréquentation en plus. Donc, la région, elle voit qu'il y a de plus en plus de monde qui prend ses bus, on fait des efforts sur les travaux, et le président des Transports avait écrit à la communauté de communes pour lui assurer que à des horizons différents, donc je crois qu'il y avait une échéance en 2022 où on aurait un bus de plus de manière définitive, c'est le cas. À horizon 2025, ils réfléchissent à mettre un deuxième bus ou à prolonger un bus existant qui s'arrête pour l'instant à Ganges. C'est encore en discussion, c'est des sujets budgétaires en ce moment. Qu'à terme, ils souhaitaient rajouter encore davantage de lignes. Donc avance, on n'a pas encore d'engagement ferme, peut-être qu'il faut qu'on refasse un courrier à la région et à Aérotransport pour leur dire est-ce qu'on peut refaire une réunion de travail sur l'offre.
On l'a eu il y a 15 jours.
C'était assez bien parti. Oui. Peut-être qu'il faut relancer.
Non, c'est bien engagé, oui, pour avoir un peu plus de lignes, ça c'est
formellement.
Sûr. Oui. Tu vas réécrire. Il y a aussi, les lignes qui partent de Vigan, mais le sens dit dans l'étude,
c'est
la compris.
C'est ça, oui.
Et donc, du coup, ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait beaucoup plus.
Ça fait partie du travail de PETR avec le chef, plutôt là, du transport à la demande, en fait. Des petits bus, comme tu dis, à la demande, parce que pour l'instant, que ce soit l'IO ou autre, ils mettront des bus que s'il y a beaucoup de monde. Mais il faut déjà montrer qu'il y a du monde. En fait, tu vois, c'est tout ça.
Et jusqu'à Millau.
Si, si. C'est demandé.
C'est vrai. Dans le cadre du PETR, ça s'est travaillé.
Il y a demande, comme ça. À Montpellier, il y a une demande qui va à Millau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que puisqu'il y en a une industrie, on peut réduire.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ce que tu disais pour Olas, pour prendre cet exemple d'Olas, en fait, une pratique peu qui existe à faire, c'est que prendre un trajet régulier qui existe, faire, il y a un voyage le matin, un voyage le soir, même deux le soir à 5 et 6 heures, etc. En fait, tout un chacun peut le prendre. Donc ça, c'est aussi une réponse à ce que tu dis. Par exemple, j'habite au Las, je veux descendre en bus. Bon, évidemment, il faut pouvoir que les horaires collent, etc. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. Comment on fait ? Il faut se signaler auprès du service départemental de la région pour dire, voilà, je m'appelle un tel, j'ai besoin de prendre le bus régulier de telle ligne. Parce qu'ils ont, c'est important qu'ils connaissent qui emprunte ce bus, puisque c'est emprunté par des scolaires. Donc il ne faut pas non plus envoyer n'importe qui, en tous les cas, que les personnes soient identifiées. Et ensuite, comme le chauffeur de bus ne peut pas vous vendre un billet, il faut avoir acheté sa carte ailleurs, enfin à la maison de tourisme par exemple, il me semble que c'est vendu. Et donner un ticket à chaque fois, ou je ne sais pas comment ça fait, biper, je ne sais pas. Donc ça, c'est possible. Là, ça peut être aussi très intéressant à utiliser le soir en complément d'un autre moyen. Voilà, alors.
Ça peut être plus longtemps, je pense.
Si. Oh, non, c'est assez vieux, mais personne ne le sait. Donc là, maintenant, depuis que je l'ai bien appris, cette réunion qu'il y a eu il y a 15 jours, je le répète. Et effectivement, on avait décidé aussi qu'on ferait une communication certainement sur notre petit journal ou celui de la communauté des communes, en expliquant un petit peu tous ces projets-là, et y compris ces choses qui existent déjà et qui ne sont pas trop utilisées. Le samedi matin, dans la plupart des petites communes, il y a des petits bus qui sont à disposition des habitants pour descendre faire le marché. Bon, ils ne sont pas toujours remplis. Donc là aussi, ça a un coût. Donc ça aussi, il faut les remplir, ces bus, parce que si personne n'y va dedans, effectivement, au bout d'un moment, on nous dira bah, ça coûte trop cher, on les supprime. C'est de favoriser les transports en commun, ça peut effectivement les multiplier, par conséquent les multiplier.
Tu as bien répondu à toutes vos interrogations. C'est bien clair.
Merci Sylvie.
D'autres questions? Non? On passe au vote? Donc il s'agit d'approuver ce plan de financement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 6, demande d'inscription au programme d'investissement. Diagnostic d'éclairage public territoire d'Energia. Alors nous avons été sollicités par Territoire Énergie, anciennement SMEG, hein, tout le monde connaît SMEG, pour une demande de transfert de compétences de l'éclairage public. Il y a quelques villes hein, qui ont répondu, qui sont éligibles donc à ce transfert. Pour cela, un diagnostic est obligatoire, donc c'est l'objet de la délibération de ce soir. Donc le diagnostic s'élève à 11 000, cette étude s'élève à 11 124 euros TTC et pour nous, donc, elle nous coûtera 5 620 euros. Voilà, donc c'est une étude qui, enfin un diagnostic qui nous permet de faire le point sur l'amélioration de l'éclairage public. À ce jour, nous avons environ 300 points lumineux hein, qui ont été changé grâce au fonds vert, grâce à l'Europe, grâce au parc national des Cévennes. Ces fonds verts et ces subventions, donc ces aides, ne sont plus attribuées, donc d'où de répondre donc à Territoire Énergie plutôt favorablement. Vous avez des questions par rapport à ça? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 7, association viganaise, subvention 2024. Jules Chamou, tu...
Il s'agit, on a le programme un peu plus bas, il y a une précision à vous apporter sur le texte de la délibération. Il faut évidemment inscrire un montant. Le montant, il est de 1300 euros. Et vous l'avez dans le détail qui suit. Il y a tout un tas d'animations qui sont proposées, qui sont votées par la communauté de communes et donc participer, non au titre de qui est vraiment en relation commerciale, mais plutôt de partie d'animation de le reste de l'année à d'autres périodes, d'autres styles. Bon, le latin, on le fait guère qu'à Noël, mais les manèges, les concerts de musique, etc., on le subventionne le reste de l'année, donc il n'y a pas de raison que pour la période de Noël.
Voilà, donc une demande de subvention de l'UPV pour les animations de Noël. Donc ils nous ont envoyé leur plan de financement, 1300 euros pour la mairie. Donc on va, si vous êtes d'accord, on va leur attribuer les 1300 euros. Et ils demandent 6000 euros à la communauté des communes du Pays Viganais, dont 3000 euros de FEDEBO. Le versant du Pays Viganais, du Viganais. Question par rapport à cette délibération? Alors on passe au vote. Qui est contre? Abstient. Merci. Attribution de subvention dans le cadre de l'opération programmée de l'habitant.
Oui.
Sylvie Pavista.
Donc, vous savez que cette opération, elle a démarré pratiquement au 1er 2024. Et là, nous avons la joie d'attribuer une subvention au premier dossier, donc, qui a été ficelé complètement. Et les montants du travaux s'élèvent à 77 000 pour cette personne. Le montant de l'aide de l'ANA, 63 000. C'est impressionnant. Une aide du département de 500 et de la commune de 900 euros. La collectivité s'est engagée à améliorer l'état donc, de l'immobilier en Pays Viganais. Et donc là, c'est le premier dossier qui voit le jour. Donc en fait, ça fonctionne assez bien parce que c'est vrai que monter des dossiers à l'ANA, c'est quelque chose d'assez compliqué et fastidieux pour tout un chacun. Là, on peut accompagner grâce à Urbanis les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants, ainsi que les copropriétés. On peut les accompagner pour de la rénovation d'énergie, enfin de énergétique, je veux dire, ou aussi refaire une salle de bain pour la mettre en PMR si c'est une demande d'une personne qui en a la nécessité, etc., etc. Et nous, les retours que l'on a, c'est que l'accueil par Urbanis est assez efficace. Ils viennent sur place, ils ne les lâchent pas, et la preuve, pour avoir un dossier ficelé comme ça en à peine 9 mois, c'est quand même très très bien. Il y en a un autre qui doit arriver, qu'on votera pour le prochain, mais il y en avait un autre qui était quasiment prêt aussi. Donc c'est une bonne chose parce que rénove notre bâti ancien qui en a bien besoin. Je ne sais pas. Déjà, on a le nom de la personne, mais je ne sais pas.
La rénovation énergétique, il y a les fenêtres aussi. Je n'ai pas retenu, mais enfin voilà, il y a beaucoup de rénovation énergétique. C'est dans le Boursin, dans le Boursin.
Dépend de là où on est, plus on est plus en
donc c'est vraiment une belle opération qui va permettre de réhabiliter le bâti ancien de notre commune et on a fortement besoin.
Il me semble qu'au mois de juin, il y avait déjà 93 dossiers qui étaient évidemment plus ou moins avancés selon le moment où les personnes ont...
C'est vrai que ça fait des aides conséquentes et donc ça peut encourager les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou qu'ils soient occupants, mais c'est vrai que c'est de conséquentes. Oui. Alors on va passer au vote qui est contre. Sien, merci. Libération numéro 9, cession de la parcelle cadastrée B1505, terrain du gaz. Sylvie Pavlista.
Beaucoup de travail.
Oui, ouais, tu bosses aujourd'hui, mais t'as mieux pour moi.
Alors, donc, cette parcelle, dite le terrain du gaz, est à proximité, à l'entrée de ville, à proximité du garage Renault. Il appartient donc à la commune, 242 route de Ganges, et le bien a été estimé par les domaines à 72 320 euros. Il est constructible en UC avec certaines contraintes, parce que le terrain avait été pollué, donc ça ne peut pas être à destination d'habitation résidentielle. C'est pour de l'artisanat, et ça ne peut pas être plus non plus de l'artisanat avec des entrepôts à ciel ouvert, par exemple, comme... quelqu'un avait été intéressé pour faire de la location de mangin pour le BTP, et donc ça ne peut pas être utilisé à cette fin-là. Donc on a été approché par Pierre-Yves et Jérémy Salz, qui sont actuellement propriétaires, deux cousins propriétaires du garage Salz, qui souhaitaient agrandir et augmenter, diversifier leur activité. Et donc ce terrain les intéresse parce que c'est à proximité de leur garage. Pas très simple pour eux aussi, puisque entre les deux, bon, c'est pas. Donc ils se portent acquéreurs au prix des domaines. Voilà, c'est ça l'objet de la délibération. Leur projet qu'ils sont venus nous présenter, c'est donc d'agrandir leur garage, mais d'avoir simplement un atelier pour des réparations plutôt longues de 2, 3, 4 jours. Sans accès du public. Le public serait toujours reçu comme ça l'est actuellement dans leur petit garage. Et leur petit garage recevrait les petites visions des petits travaux à la journée. Voilà. Donc,
Il y a déjà les voitures qu'il y a dedans.
Comment ? Probablement, oui. C'est l'opportunité pour un entrepreneur qui fonctionne bien, qui a envie de s'agrandir, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions par rapport à son garage actuel.
D'habitation.
On peut pas, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas dormir sur place, sur ce terrain. On ne peut pas construire quelque chose et dormir, c'est impossible. Oui. Déjà, par conséquent, une habitation ne peut pas. Il y a cette contrainte-là, et puis on ne peut pas non plus, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais comme ce que je disais tout à l'heure, par exemple, des engins, un ciel ouvert, etc. Voilà. Et la parcelle fait 3600 m² à peu près.
Elle est ciel ouvert. Mais voilà, c'est bien de pouvoir permettre à des entreprises locales de se développer.
Et... que ce soit pour les entreprises ou pour les petits cuviers, quand même assez rare.
Les garagistes se sont débordés.
Bien, ils sont débordés.
N'est-ce pas
Il y avait le dossier qui accompagnait, qui était très bien documenté, là, sur, fait par les domaines, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Leur dossier, des fois, ils nous donnent un prix comme ça, on ne sait pas comment ils l'ont fait. Là, c'est assez bien documenté en fonction de l'évolution de la population. Ils ont été chercher aussi des références aux alentours, donc à Sumène, à Ganges. Donc c'est assez bien argumenté. Ils se sont basés sur un prix à 20 euros le mètre carré.
À l'heure actuelle, il y a les services techniques déposent voilà, des matériaux ou autre, mais c'est pas. Non, non. Bon, alors, plusieurs personnes l'ont visité pour, avec des projets, mais c'est, ça n'a jamais abouti en fait. Hein, ce sont, c'est vrai qu'ils sont. Le garage Renault étant vraiment à proximité, ça les intéresse fortement ouais, pour développer leur activité qui. De plus en plus importante.
Ça semblait cohérent, en tous les cas, comme, oui, comme projet.
Et ils sont eux-mêmes riverains. Donc on a plutôt tendance à ce que ça se passe bien.
Oui.
Tendance à penser que ça se passe bien.
Oui. Voilà. Allez, donc on va voter. Donc qui est contre ? Septième. Oui, pour Magali. Hein, voilà. Délibération numéro 10, intégration de parcelles communales dans le domaine public routier communal. Eh bien, Sylvie, c'est encore à toi. Hein.
C'est ma fête.
Voilà.
Donc, vous êtes habituée. Régulièrement, ça, c'est les fruits du travail des Val-Lacroix sur les recherches de ce qui est encore dans le domaine privé communal, alors que ça appartient à la commune. Donc, c'est des histoires de régularisation de petites parcelles qui correspondent à des petites. Des bouts de route qui sont encore qui sont propriétés communales mais qui ne sont pas répertoriées comme ça sur le cadastre. Donc on a dans le hameau de Bouliège la parcelle cadastrée E969, hameau de Gaujac, il y a plusieurs petites parcelles également à régulariser. Donc à chaque fois la démarche est la même, c'est-à-dire qu'on écrit au propriétaire pour nous céder ce petit bout de terrain. Ils nous répondent par courrier ou ils viennent nous voir s'ils n'ont pas tout compris. Et quand on est d'accord, on fait passer la délibération. La même chose pour l'impasse de résidence de Campel et aussi sur la route de la Fabrègue. Donc, on vous propose de classer ces différentes parcelles dans le domaine public routier et par la même occasion de dire que l'impasse résidence de Campel s'appellera maintenant, la voie s'appellera impasse résidence de Campel, parce qu'elle n'avait pas de nom. Et sur les parcelles de la route de la Fabrègue, de manière très originale, la dénomination de la route sera route de la Fabrègue. Là aussi, on s'est rapproché de la commune d'Avez, parce que la voirie route de la Fabrègue existe déjà sur le domaine d'Avez. Donc on leur a demandé s'ils étaient d'accord, on a demandé aux riverains aussi s'ils étaient d'accord pour que ça soit la même dénomination, ce qui semblait bien plus simple pour tout le monde. D'accord. J'espère que vous le saurez aussi. Si je peux me permettre ce petit coup de pression, parce que je sens que là tout le monde n'est pas du même avis.
Comment ça ? Question ? Pas de question ? Alors on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstiennent, merci. Délibération numéro 11, dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune du Vigan. Sylvie Pavlista.
Excusez-moi.
Pardon.
Pour ce
pays-là, il y a un. Ok. Pas obligé de sortir, Magali. Hein.
La réglementation nous oblige à nommer toutes les rues de notre commune. Donc nous faisons la chasse aux petites rues ou ruelles ou chemins qui n'ont pas encore de nom ou de places qui n'ont pas non plus de nom. Donc aujourd'hui, il s'agit de nommer la voie qui dessert le Masparent, la nommer chemin du facteur. Cette voie, elle est à cheval aussi sur la commune de Roquedur. Là également, on s'est rapproché des riverains et du maire pour être sûr qu'on soit d'accord sur cette dénomination. Donc tout le monde est d'accord pour le chemin du facteur. Ensuite, il y a une voie qui dessert le Masparent depuis la départementale 999. Là, on est tout près de Pondéro. Il conviendrait de dénommer cette rue impasse du Masparent. Alors là, il y a une petite amélioration qui serait apportée à ce plan. C'est-à-dire qu'on continuera, il y a tout le tracé jaune qui est convenable, mais après, dans l'autre sens, Nolwenn, voilà, ici, là, ce petit bout, voilà, qui est une voie privée. On s'est rapproché du propriétaire, de la mairie de Roquedur, parce que là, tout le monde était d'accord aussi pour l'appeler du même nom. Voilà. On peut aussi nommer des voies privées, ce n'est pas que les voies communales qui peuvent être, auxquelles on peut attribuer un nom. Rad habitera un passe courant. Elle n'est pas là, mais bon. Voilà, ensuite on a un troisième hameau à nommer. La partie rouge, ça sera, donc dans le hameau de Bouliège, ça sera le chemin du Radal. Et la partie basse, l'impasse de Laval. Voilà. Le nom d'un rocher qui est situé un petit peu plus haut. Donc les riverains ont dit, bah, le rocher s'appelle comme ça là-bas, on dirait bien. Nous, ceux qui le revoient, nous, va aussi. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord. On passe au vote.
On peut passer au vote. Vous avez des questions ou pas? Pas de questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12. Dénomination de la salle de cinéma Le Palace, Émile et Mireille Lacan. Denis Sauveplan.
Oui, bonjour. Donc, on a décidé de rendre hommage à Émile et Mireille Lacan, qui ont beaucoup contribué à la création d'un cinéma au Vigan. Ça remonte à loin, parce qu'Émile, le papa de Mireille, avait acheté le bâtiment en 58 et décide de créer le cœur de ville. Ensuite, ce cinéma a été inauguré en juillet 82, je pense du maire de l'époque. Et ensuite, Mireille Lacan a ouvré avec passion pour avoir des films récents dans ce cinéma. Et elle a contribué à la renommée et à faire que ce cinéma marche bien. Le cinéma est devenu de la mairie en 2002 et il a été rénové en 2007. Et nous avons décidé de garder le nom du cinéma Le Palace, mais que la salle soit dénommée Salle Émile et Mireille Lacan, avec une plaque.
Nous n'avons pas encore la date parce qu'on attend que sa cousine avait une cousine parisienne et donc la date, on vous tiendra au courant. Si parmi vous, vous connaissez des personnes qui ont une veille ou des photos, n'hésitez pas, ça permettra de faire une exposition dans l'hôtel du cinéma pour le jour de l'inauguration. Un bel hommage en tout cas qu'il faut rendre à Mireille qui a bien œuvré pour ce cinéma et pour la culture cinématographique au Vigan.
Et l'équipe d'amis de Mireille qui ont trouvé des photos et qui vont faire une expo au cinéma, comme tu dis, le coordonnera avec cela.
Alors, avez-vous des questions par rapport à cette délibération, à cette question? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13, adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2023, Jérôme Sauveplan. Et nous allons vous présenter donc...
J'en profite donc pour vous présenter la personne qui a rempli donc ce qu'on appelle le RPQS. Donc c'est Guillaume Couder, c'est notre dernière recrue au service et responsable donc, du service de l'eau. Pareil, c'est ton efficacité.
Bonjour à tous, hein, de vous rencontrer ce soir. Un petit mot rapide, Guillaume Couder, vous connaissez mes fonctions. Voilà, j'ai un peu d'expérience en assainissement, en eau potable, notamment sur le pays d'Igard, c'est assainissement, puisque je suis côté Nicolin. Et bien mes démarches, vous connaître les questions, n'hésitez pas. Une petite ronde début octobre.
Et il habite le Vigan.
Et j'habite le Vigan, voilà. Depuis 2 ans et demi maintenant, j'habite au Vigan.
Bonsoir.
C'était pas à 7h.
C'est l'heure de l'apéro bientôt.
C'est l'heure. Excusez-moi, du retard. Bon, c'était ça, les ouvriers qui travaillent, on va dire.
Merci Guillaume. Du coup, j'imagine que vous avez tous pu apprécier l'excellent travail de Guillaume. Ça nous change quand même la vie. Parce qu'on a, on a aujourd'hui une vision plus claire et plus précise notre réseau, de l'état de notre service, des projections à plus long terme. Du coup, sur PQS, c'est un document qui est obligatoire et qui doit être publié chaque année. C'est pour la transparence des services publics de l'eau et de l'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou pas à ce propos ?
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci, Milo, pour le document. Et c'est vrai que j'imagine que les données vont certainement être... parce que peut-être c'est des outils aussi pour mesurer. C'est peut-être la vision, notre vision zéro, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais...
Ça va permettre de mesurer la performance, effectivement. Alors, si vous voulez, je vais profiter, vous avez des graphiques.
En gros, on est bon sur la lise. En gros, c'est en fait, ça, ce document, il est aussi pour mesurer la performance du service. C'est-à-dire qu'on répond et les conditions de le délai de réponse entre un appel pour une fuite et l'intervention sur une fuite. Le débit, ça permet de te situer dans une halle et savoir où c'est que... Et ça, c'est des documents qui permettent aussi à l'agence de... Là, vous n'êtes pas bon, là, vous n'êtes pas bon. Enfin, si vraiment tu n'es pas bon, tu n'as plus de subvention de l'agence de l'eau. Aujourd'hui, dans ce document, on a encore des subventions de l'agence de l'eau. Globalement, on est bon partout. Il y a encore des améliorations à faire. Et c'est des capteurs sur les tirs. Et qui sont réels, on peut savoir où il y a une fuite, sur quel secteur il y a une fuite. Ce qui permet d'identifier très bien Michel et Marc. Et qu'on a trouvé, ce qui nous permet d'améliorer la performance du réseau. Et le travail de Guillaume, il nous permet aussi d'arriver plus finement à le prix du kilowattheure. On peut baser une réflexion. C'est ça. On peut savoir ça, on peut savoir combien les pompiers ils prélèvent sur les bornes d'incendie.
Ouais,
c'est ce que je dis, c'est qu'on a eu des. Ouais. On a eu quelques grosses fuites là cette année, ouais. Qu'on a pu réparer plus ou moins rapidement selon la vitesse avec laquelle. Il y a de quoi s'améliorer.
Vous avez une idée un petit peu de bouffon, c'est.
On a identifié par le reste, identifié assez rapidement.
C'est des réseaux qui sont en centre.
Par contre, on a eu un peu démarré, on a pu faire le vol, comme une orange belle. Là, les identifiés sont là et ensuite on sait que sur la partie d'avant, routeneur, on a probablement une à deux fuites qui permettent de visualiser justement tous ces débits de nuit avec la sécurisation.
En complément, pour avoir une idée des ratios, en France, en moyenne, il se perd 45% d'eau dans les canalisations. Il y avait eu un reportage sur Nîmes, la situation était encore plus catastrophique. Nous, au début du graphique que vous avez en 2008-2009, on était à 60% de fuite. Donc finalement un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus énormément au-dessus de la moyenne. Et avec tous les travaux qui se sont faits sur les années précédentes, on est à un tiers de fuite aujourd'hui. 130 000 sur 450 000, on était à 60%. Donc le chemin parcouru, il est colossal. Il y a encore du boulot, ça, on ne peut pas se satisfaire d'un tiers. Mais comme la moyenne en France, elle est à 45, on a fait une bonne partie du boulot. Il faut continuer.
Merci Guillaume. Vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Questions particulières, donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Les décisions, donc décision du maire. 17 juin, contraction d'un prêt au Crédit Agricole de 1 500 000. 15 juillet, mise à disposition du pôle d'enseignement supérieur à l'IFMS du CHU de Nîmes. 18 juillet, contrat de maintenance ascenseur du pôle d'enseignement supérieur avec la CAF. 23 juillet, contrat de maintenance EPMR, pôle d'enseignement supérieur, c'est toujours pour l'ascenseur. 23 juillet, c'est un marché public, donc avenant numéro 4, réhabilitation des boulevards, nouvelle répartition, contraitants et sous-traitants. 30 juillet, contrat de maintenance PAC-P, pôle d'enseignement supérieur avec AVTEC Thermique, pardon. Le 5 août, contrat de session pour un spectacle Gauvrache. Le 9 août, virement de crédit de chapitre à chapitre en investissement. Le 9 août, avenant numéro 1 au marché de travaux pour le boulevard Jean Jaurès et rue Gisèle Halimi. Le 9 août, avenant numéro 10 pour le lot 3 charpente couverture. Le 9 août, avenant numéro 11 pour le lot 5 serrurerie. Tout ça, c'est pour le pôle d'enseignement supérieur. Le 9 août, avenant numéro 12 pour le lot 7 menuiserie. Le 9 août, avenant numéro 13 pour cloison, lot numéro 8, cloison doublage et faux plafond. Le 28-08, contrat de session spectacle, on n'a rien vu venir. Le 12 septembre, convention de représentation d'honoraires, Madame Marie Bernardin. 17 septembre, contrat de maintenance défibrillateur, pôle d'enseignement supérieur. 17 septembre, contrat de session Carmen Ultra. 18 septembre, contrat de session concert de musique baroque Esmos. 18 septembre, contrat de session soirée chanson d'amour et de toujours. 18 septembre, tarif concert de musique baroque. Concert qui aura lieu en novembre. Novembre précisément. Alors j'ai des remerciements. Préfet Dugas, cabinet du préfet, qui nous remercie pour notre implication et notre disponibilité durant les différentes phases de préparation des scrutins et des dernières élections. Législative, voilà. Vous avez su une nouvelle fois démontrer au travers de ce rendez-vous avec nos citoyens l'excellence et l'engagement sans faille des agents de l'administration territoriale de l'État. L'association Astacien Pré, la 13e édition du festival à Bavu d'ici, qui vient tout juste de s'achever, a connu un magnifique succès. Chaque année, le public est de plus en plus nombreux et ce fut encore le cas cette année avec plus de 3000 personnes recensées dans tous les rendez-vous du programme. Les festivaliers viennent de plus loin, de plus en plus loin, Carcassonne, Le Mans et même Marc-en-Barœul, c'est dire la notoriété acquise. Je vous remercie donc du soutien qui nous est accordé par la commune du Vigan dans l'organisation de festivals et de votre présence auprès de nous. 10 mois de préparation et d'engagement pour un résultat magnifique, c'est vraiment encourageant à poursuivre l'aventure. Notez que parmi les festivalières et festivaliers figurent en tout incognito, Madame l'ambassadrice de la Palestine en France. Je vous remercie pour votre soutien, votre présence et vos sentiments les meilleurs. Henri Lavesque. Et l'épicerie Plus en Pays Viganier, c'est avec un immense plaisir que nous avons reçu votre subvention de 600 euros accordée à notre association. Cette subvention va nous permettre de continuer nos actions d'aide alimentaire en faveur de personnes en situation précaire. Nous vous remercions vivement pour votre soutien. Pour les bénévoles de l'épicerie Plus en Pays Viganier, la présidente donc Arlette Berthézel. Deux questions diverses. Nous aimerions savoir si le projet de gendarmerie est toujours d'actualité. Le problème, c'est les bailleurs sociaux, hein, en fait. Donc les bailleurs sociaux qui ont matériaux, qui ont des taux d'intérêt élevés. Et un bailleur social était plutôt favorable à cette action et à la gestion, en tout cas prendre la gestion de cette gendarmerie. Il s'est désisté une fois de plus. Désistement. Et donc, on attend la réponse de notre. C'est pas nous qui attendons, c'est la gendarmerie. Hein. Voilà, nous avons acheté les...
On m'a dit qu'il y avait une cible, ils ne pourraient
plus. Ah ben... Alors, Alors, c'est pas ce qu'on nous dit, nous, hein, en tout cas. Moi, chaque fois que je rencontre la sous-préfète, et encore cet été, je l'ai rencontrée deux fois, enfin, assez régulièrement, et chaque fois, on parle de la gendarmerie. Donc, la sous-préfète a sollicité les gendarmes. Nous avons reçu le nouveau colonel. Le colonel Casso qui remplace le colonel Schubert, le général Schubert, donc pour la gendarmerie du Gard. Hein, donc lui aussi, il est vraiment confronté à ce problème-là. Il ne nous l'a pas caché, donc et on n'est pas les seuls, hein, en tout cas la seule commune à être confrontée à ces problèmes-là. Mais il y a une vraie volonté pour la gendarmerie de vouloir faire cette caserne maintenant.
Alors, l'espace qui était demandé pour implanter une caserne de gendarmerie.
Non, l'espace n'est pas trop petit. En fait, l'espace, il y a des études de la DDTM qui disent qu'il y a des eaux de ruissellement. Donc la configuration au départ qui était prévue, en tout cas dans la construction de cette gendarmerie, ne peut pas se faire, si tu veux, comme ça avait été décidé au départ. Donc, ils ont revu leur plan de construction, voilà, par rapport à cette étude d'eau de ruissellement. Une étude secondaire a été faite donc pour ces... Et la volonté, elle y est toujours, de la part d'agents d'Armouville. En tout cas, nous, on a acheté les terrains. Donc, moi, j'aimerais bien que ça se fasse, vraiment. Tout le monde, vraiment tout le monde. Les gendarmes surtout. Mais voilà, le colonel Cassot, donc on a rencontré cet été avec Joël, et sur cette si je se fasse. C'est évident, hein. Non, pas évident. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ah non, il n'y a rien du tout. C'est comme vient d'expliquer Sylvie, c'est de bailleurs sociaux, on prend en charge ça, et qu'il y a des difficultés financières, etc. Donc,
le bailleur, c'était Arcade, le bailleur. C'était Arcade, le bailleur. Le bailleur, c'est Arcade, mais Arcade n'a pas de logement ici sur le Vigan. Donc, il ne veut pas prendre en charge la gestion d'un bâtiment qui serait seul au Vigan, si tu veux. Voilà. Et donc, c'est la gendarmerie qui choisit. C'est la gendarmerie. Et donc, la gendarmerie a demandé à Toit pour tous et Habitat du Gard, puisque ce sont les deux bailleurs qu'il y a sur le Vigan. Mais on n'a pas de réponse. Pour l'instant, la gendarmerie, en tout cas, attend que l'un ou l'autre se prononce. On en est là. Donc, le colonel Cassot, il connaît bien le dossier, il s'en occupe, enfin, voilà, mais bon, après...
En fait, il y a beaucoup d'événements indépendants de nous tous. La flambée des taux d'intérêt, la flambée des prix de toutes sortes avec les problèmes de plutôt. Donc, je pense que tout ça, ça a rouillé cet équilibre... cette machine qui aurait dû fonctionner, comme tu dis, on aurait dû voir les pierres se construire.
Après, on n'a pas la main sur ça, quoi. Voilà, ouais. C'est vraiment la jambe. Nous, je te dis, on a acheté le terrain vraiment pour...
Et à chaque fois qu'ils nous ont demandé de...
Oui, chaque fois, ça c'est sûr.
Accueillir les pluviales dans le champ, on va grandir, faire oui. C'est du business, hein. Donc si c'est pas rentable, ils y vont pas, quoi. Les normes sont trop importantes, la rentabilité, elle n'est pas...
On ne le détruit pas, hein. Non, on ne le détruit pas, ce bâtiment. On ne le détruit pas parce qu'il peut être...
J'ai entendu parler que vous le proposiez.
On a eu une demande du proviseur, hein, de M. Charère, donc, parce qu'il y avait des classes en plus cette année, il ne savait pas où les caser. Donc on lui a proposé ce bâtiment, Sylvie l'avait rencontré. On lui a proposé ce bâtiment, mais après, si j'ai bien compris, le département du Gard n'a pas suivi derrière pour faire...
Ça coûte trop cher, mais c'est pas venu voir.
Voilà.
C'est bon, hein. Ouais. En fait, ce qui était intéressant avec la cité scolaire, c'était déjà la proximité avec ce bâtiment, puis aussi, c'était pas un engagement qui, a priori, aurait pu durer très très longtemps. Donc, c'était une manière de les dépanner, parce que le bâtiment est assez propre, les dépanner, tout sans nous contraindre trop, nous aussi, pour l'avenir.
C'est fort dommage. Et puis, donc, ce bâtiment, on ne le détruit pas, parce qu'effectivement, il peut servir pour. Pour des formations, pour un tas de...
Celui-là, il n'est pas classé.
Non, il n'est pas classé. Mais il n'est pas classé.
Déjà, je ne pense pas qu'il soit dans l'enceinte du...
Il n'est pas dans l'enceinte du lycée, donc il n'est pas classé. Et deuxième question, donc un point sur les rues qui doivent être goudronnées. Donc, la rue qui doit être goudronnée donc en 2025, c'est l'avenue des Combes. L'avenue des Combes, mais par contre, donc, on a reçu une proposition du SPEG, enfin de Territoire Énergie, pour enterrer les fils nus. L'avenue des Combes, on devait la faire cette année, sauf qu'on a reçu au printemps une proposition de Territoire Énergie pour enterrer les fils nus. Donc il y a beaucoup de fils nus sur cette partie-là, et comme on veut la goudronner, donc on a répondu au programme du SMEG, enfin de Territoire Énergie. Pour enterrer les fils et puis après refaire l'avenue. Donc il vaut mieux faire l'avenue quand les fils sont. Voilà. Elle est programmée et pour.
L'avenue de Rochelle qui a été fait donc
Ah bah évidemment, on a refusé. Oui. Ah, moi j'ai refusé de payer ce qu'ils avaient fait, voilà. Donc ils sont revenus en juillet,
oui,
c'est ça.
Après, eu, voilà, un jeu de passe-passe parce que c'était pas la même commande non plus. Donc
on n'a pas payé. On n'a pas payé ce qu'ils ont fait la première fois. On a payé ce qu'ils ont fait la deuxième fois.
Voilà, c'est ça. Ça fait combien? Je sais plus. 95.
On est en train de travailler sur le budget et si le budget le permet, on fera un
autre. Combien
65.
Ça va durer.
Oui. Bah, y a tous les bus scolaires qui passent par là. Enfin, il fallait quelque chose de.
Vous avez attaqué au bruit périphérique de la gare de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui. On y réfléchit. On verra ce que le budget nous autorise à faire ou pas quand on votera le budget. Voilà.
C'est ça, il y a des rues où on ne peut pas y aller.
Plus vous accuser, je
crois. Il y a certaines rues où on ne peut pas aller.
On ne votera pas. C'est parti, on est parti. Non, mais l'état, je sais, on ne peut pas se passer de rien.
Voilà, donc ce conseil municipal est
chargé. Si au passage, vous passez à la rue du Pont de la Croix, pour le pont de Tessin et le pont de la Croix.
Chacun veut son petit
nom. Il y a le fond de rivière qui se creuse et qui se remet.
Chacun de son petit bout. J'ai printemps pas. S'il vous plaît.
Dans les conseils municipaux, on s'était dit que nous tiendrions au bout de l'état des subventions pour le
oui.
Savoir où en était, l'avancement de la réception de ces subventions et donc anticiper. On avait dit que. Vous nous préviendrez chaque fois que vous recevrez
une. Eh bien, on vous donnera les réponses, on va travailler sur ça et on vous donnera. Ah, bah allez-y.
Donc, on a tiré la ligne par rapport à ce que vous votez.
L'acquisition, en fait, pour le versement des subventions, la plupart des procédures. La clôture des travaux avec preuve, je crois que c'est 28 août, fin août, quelque chose comme ça. On a fait la réception des travaux le 28 août.
Oui.
Temps de finir de monter le dossier, de leur renvoyer que ça a bien été clôturé, ça, entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, etc., toutes les parties prenantes. On met 10-15 jours à on leur a envoyé les demandes de paiement, ou on est en train de leur envoyer les demandes de paiement. Mais ça met quand même. Voilà, c'est jamais immédiat à la. Certains fonctionnent différemment et font des versements d'avance de subventions, etc. Mais la plupart attendent que ça soit fini pour commencer de verser les subventions. Donc là, on vient à peine de finir.
On
va
faire un peu clair.
Selon le type, tu fais le projet, d'un qui sont subventionnés, voire des avances.
Oui, mais ça, oui, on en a demandé. On en a demandé, on les a eus. On les a eus.
Il y a tellement déjà de subventions qui sont versées en retard. Ouais, et ouais. Tout ça, ça fait.
Oui, c'est
voilà. On en avait effectivement sollicité et on a eu, là où on pouvait, on a eu des avances.
Sur ces projets-là, vous avez
droit à les. Pour ça, il y a quelqu'un qui est très efficace, c'est Nolwenn. Alors, tu peux y faire confiance.
C'est une avance à l'échelle.
Le département, oui. On a eu 150
codes
du
super
avant
une
clôture du budget.
Comptable.
D'ici
Noël.
Donc voilà, d'ici là,
ça fera notre Noël. Il faut faire dans cette
tâche. Par exemple, la tranche plus. 17 000 euros.
On a relancé plusieurs fois la préfète qui a pris vraiment ce dossier à bras du corps. C'est vrai que c'est la demande des avocats.
Sachez également. Pardon. Sachez que donc il va y avoir des. Soirées portes ouvertes, puisque c'est journée portes ouvertes donc, du pôle d'enseignement supérieur, donc vendredi 27 et samedi 28. Donc vendredi 27 de 17h à 19h au pôle d'enseignement supérieur et samedi 28 de 10h à midi. Donc venez visiter le pôle d'enseignement supérieur, qui est un lieu absolument magnifique. Je remercie, d'ailleurs j'en profite pour remercier. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce pôle, parce que ça a été vraiment fait, c'était un vrai challenge de faire ça en un an, ça a été réalisé en un an, sans dépasser le budget. Nolwenn l'a suivi, mais alors vraiment très très bien, et bon, c'était une belle réussite. Donc je vous encourage à venir visiter ce pôle d'enseignement supérieur la semaine prochaine, donc vendredi. Et l'inauguration, j'allais y venir, l'inauguration se fera le 28 novembre à 16h. Voilà. Et vous serez bien évidemment tous invités. Voilà. Il n'y a rien à comprendre. Je ne sais pas, j'ai pas compris. Je ne sais pas. Même la sous-préfète n'a pas compris. Hein. Voilà. On a fait une réunion à la sous-préfecture, même la sous-préfète n'a pas compris. Voilà. Par contre, elle s'interpelle sur notre pump track. Par contre, elle ne s'interpelle pas du tout sur l'enrobé qu'a fait M. Glaze, là, sur 2 hectares, sans autorisation, sans permis de construire et sans DP.
Voilà. Parce que, en fait,
et ça, la sous-préfète aussi elle l'a en travers.
Pour le Pontrac, on a fait des choses en règle, le permis de construire.
Le CUB, voilà.
Le CUB d'abord pour savoir si c'était faisable, permis de construire qui a été par Madame le maire d'Avez, etc., etc. Donc tout est absolument conforme, alors on ne sait pas. Je pense qu'il n'y a rien.
On va parler du monteur,
mais ça correspond
au cahier des charges.
Eh bien oui, mais tout correspond. Ah, c'est non, ce qu'on a vu ça, en sous-préfecture, tout correspond. Et oui, ben le maintien, parce que tu veux que
ça va nous le maintenir.
Après, là, on est dans l'ordre de la mesure. Il y a eu des histoires avec des digues,
oui.
Convoquées par le préfet à cause de la digue. Ben, elle assemble à une digue, ça inquiète.
On ne sait pas.
J'ai lui donné, elle m'a dit, c'est pas construit comme ça aurait dû être, ça devrait être plus bas que ce que c'est. Et ça correspond à une embâcle sur le lit de la rivière en cas de débordement.
On a eu une réunion en sous-préfecture avec Madame la sous-préfète, avec la DDTM, mais ça n'a pas posé problème.
Elle a signé le permis.
Oui, justement, mais apparemment, c'est le permis, c'est que c'était à 14.
On peut aller mesurer.
Il y a les codes, on a vérifié, quand elle nous a posé la question. Oui, notre premier travail, quand elle nous a posé la question, on s'est dit, ah, il y a peut-être un problème. Évidemment, il peut y avoir un problème. On a tout vérifié, les codes qui sont mentionnés sur le permis correspondent à ce qu'il est fait. Après, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce rendu, parce qu'entre un plan et le rendu, c'est différent. C'est vrai que quand on est sur le chemin, ça fait un gros talus, mais voilà. À partir du moment où la DTM, il y avait un recours possible, d'ailleurs, il n'y a pas eu de recours en temps et en heure, la DTM a tout validé. S'il y a bien quelqu'un ou un organisme qui est en capacité d'aller contre un projet, c'est bien eux.
Ah, mais bien sûr qu'on s'est vu, bien sûr.
Plusieurs fois,
bien entendu. Elle a participé aux réunions. Elle a participé aux réunions de construction de ce pentrac, du projet.
Et ça ne lui a pas coûté un euro.
Alors
que c'est sur la commune d'Avet.
Et qu'il y a une réunion, on parlait du pentrac, il y avait quelqu'un d'Avet.
Même les réunions de chantier.
Oui, il y a toujours eu quelqu'un d'Avet. Dans toutes les réunions. Après, c'est.
Voilà.
Il était là. En réunion, c'était lui qui était présent chaque
fois. En tout cas, c'est un bel équipement, c'est très occupé et c'est apprécié de tous les jeunes et moins jeunes.
C'est un beau truc, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste qu'elle est sur sa commune en effet, donc elle a ce pack. Visiblement.
Oui, mais elle est sur sa commune, mais le terrain, il appartient à qui? Il appartient au Vigan.
Non,
mais le terrain.
Mais
oui, non, c'est pas nous qui l'avons acheté, il avait été acheté du temps d'Éric.
Oui,
rappelle-toi.
Ça appartient à la mairie.
Tu étais élu.
Je comprends pas. Elle dit qu'elle ne donne pas d'autorisation pour qu'elle soit exploitée par les jeunes.
Elle a donné l'autorisation puisqu'elle a signé le permis de construire.
Oui, donc je lui donne l'autorisation du moins ici.
Mais on te le dit, tu peux aller voir.
On n'a pas compris.
Tu peux aller en mairie, on peut même vous donner si vous voulez le permis ici.
C'est juste que parler des subventions du pump track et que voilà, il y a cette passion.
Ça lui a coûté trop cher.
Je sais pas. J'espère que.
C'est la jalousie.
Non, c'est le terrain de la mairie, donc du coup.
On n'est pas en mauvais terme. On n'est pas en mauvais terme.
On n'est pas en mauvais terme, on ne comprend pas comme vous.
C'est nous.
Et l'entretien, c'est vous de toute façon.
Ben oui. Oui.
Après, si Avez veut participer, c'est bien.
Ça appartient à la mairie, c'est normal que la mairie entretienne.
Ben oui, bien sûr.
C'est pas Avez, c'est la mairie du Vigan. Oui, mais bon, il y en a partout de l'herbe. Si tu parles de là, l'herbe, t'en as le
permis. Elle a donné le permis.
Oui, elle a signé le permis de construire. Mais forcément, puisque c'est
sur sa commune.
Obligatoire.
C'est bien que vous appartiez.
Ben oui.
C'est une propriété privée de la commune.
Mais quand même, moi j'ai trouvé.
Mais oui, mais. Mais comme elle est.
C'est ça qu'elle est sécurisée. Mais même en tant que.
Ça va pas sécuriser, ça va se faire. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Prochain conseil municipal, le 13, il me semble que c'est le 13 décembre.
Notez.